Bonsoir, c'est Solidaire d'abord. Et ce soir, on a un invité qu'on a déjà eu il n'y a pas très très longtemps qui nous revient d'Amérique du Sud. Donc vous voyez déjà sur quoi va être le sujet. Le sujet va être sur le Venezuela, évidemment. Il y aura un tout petit temps à la fin de l'émission pour parler du festival du film paysan. Voilà, je dirai un petit peu les dates et tout ça à la fin de l'émission. Et donc là, on est évidemment sur ce coup à l'estomac qu'on a pris tous le 2-3 janvier quand Trump nous a fait ses frasques en allant capturer Maduro comme ça. Ben vraiment, c'est un truc, ça nous a tous déstabilisés sans doute un peu. Et c'est insupportable qu'il puisse faire des choses pareilles. Qu'est-ce que tu en penses, Richard?
Oui, bonsoir tout le monde. Ben effectivement, hein, ces derniers temps, on a beaucoup parlé du retour de la doctrine Monroe. Hein. Alors ça, c'est un concept, ça date de 1823.
Le monde avance.
Ça fait deux siècles, en fait. Mais c'est surtout, donc, effectivement, le contrôle par les États-Unis de l'ensemble des Amériques. Hein, c'est-à-dire qu'ils entendent avoir donc, l'Amérique latine comme arrière-cour des États-Unis et des pays qui sont là pour alimenter en ressources donc, le capitalisme états-unien.
Oui.
Et donc effectivement, cette intervention militaire, alors il faut savoir que bon, il y a eu de très nombreuses interventions des États-Unis, hein, mais il n'y en avait encore jamais eu dans ce pays. Au Venezuela, il n'y en avait pas eu. Et c'est vrai que ce pays, il a longtemps fait figure d'exception, puisque donc effectivement, il y a eu à certains moments je me souviens dans les années 70, on présentait le Venezuela comme étant la référence en Amérique latine en termes de démocratie.
Alors, il y a eu des déclarations, évidemment, hein, qui ont suivi tout de suite le moment de cette intervention. Entre autres, il y a eu des déclarations même au Conseil de sécurité de l'ONU, hein, où un gars, par exemple, Jeffrey Sachs, hein, qui est un économiste et un Américain, mais qui est un conseiller spécial auprès d'Antonio Guterres, a dit que c'était invraisemblable, que c'était impossible de faire des choses pareilles. Donc, enfin, voilà. C'est quand même une violation du droit international. C'est invraisemblable, quoi. Aller comme ça, jouer le. Je sais pas quoi. C'est pas du tout le gendarme. Hein. C'est se permettre de faire des choses complètement illégales, quoi.
Oui, cette intervention, elle est en totale rupture avec les normes internationales, elle est en violation du droit international et violation du droit des Vénézuéliens à disposer d'eux-mêmes, enfin, à assurer la souveraineté, défendre la souveraineté de leur pays.
Alors, en plus, on se retrouve avec des déclarations au niveau de l'Union européenne ou des déclarations de Macron complètement à l'ouest, quoi. Hein.
La déclaration de Macron est purement scandaleuse. Hein. Effectivement, donc il n'évoque même pas Trump, il n'évoque pas vraiment d'intervention militaire, et il demande à ce que donc le candidat de l'opposition donc, de l'élection présidentielle de 2024 prenne ses fonctions.
Ouais,
à la suite donc, de l'intervention militaire donc, à Caracas.
Et Kaja Kallas, hein, pour l'Union européenne, qui dit qu'il faut que tout le monde se calme, un truc dans le genre.
Oui, ce positionnement est très inquiétant et et démontre effectivement que l'Union européenne, enfin une grande majorité des pays européens, sont totalement sous la domination des États-Unis aujourd'hui. Et ça s'inscrit un peu dans un dessin, je dirais, de recomposition des zones d'influence dans le monde. Hein. Mmh. Et donc l'intervention des États-Unis décidée par Trump s'inscrit un peu dans cette ligne. Il s'agit notamment il s'agit de freiner l'influence de la Chine en Amérique latine. Hein. Il faut savoir que la Chine a des intérêts dans de nombreux pays, et notamment donc le Venezuela, et que la Chine est le premier client du Venezuela en pétrole.
Ouais. Alors là, tu viens de citer le mot pétrole. Donc, quand même, Trump explique que si, il a fait cette intervention, et il y a plein de gens qui disent ah ben vous voyez, il est là pour empêcher qu'il y ait un dictateur quoi hein, quelque part. Mais non, en fait, quand il fait sa déclaration, Trump, il parle du pétrole. Et alors là, il parle beaucoup du pétrole. C'est un homme d'affaires quoi. Il est là pour faire des affaires en fait. Il n'est pas là pour la démocratie. C'est un truc. C'est vieillot, la démocratie, non ?
Alors, effectivement, des références au pétrole, mais avant l'intervention, il y a eu un maquillage, quand même, parce que ça s'est fait sous couvert de lutte contre le narcotrafic.
Oui.
C'est-à-dire que depuis... Oui. Il faut savoir que depuis l'été dernier, hein, donc août 2025, il y a une armada donc navale qui occupe la mer des Caraïbes, avec des attaques donc de bateaux, il y a eu 115 morts hein, entre
115 morts.
Et 22 attaques donc de bateaux hein, et Trump donc accuse le président colombien Gustavo Petro et puis donc Nicolas Maduro donc d'être donc à des narcotrafiquants en fait hein. Et donc, c'est comme cela qu'il a justifié effectivement le déploiement de cette force navale donc dans la mer des Caraïbes.
Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont flingué des gens, ils ont flingué des bateaux en disant que de toute façon c'était des narcotrafiquants, mais dans le lot il y en a certainement qui c'était pas du tout le cas. Hein. Il y en a peut-être où il y avait de la drogue dessus sur les bateaux, mais bon, voilà, ils ont fait un blocus en fait.
Oui, oui. Non, mais effectivement, donc c'était ce maquillage, donc la lutte contre le narcotrafic. En fait, effectivement, avec cette intervention, Trump visait donc à prendre le contrôle donc des ressources pétrolières donc au Venezuela, qui sont les plus importantes du monde, hein, 300 milliards hein, donc de barils, et d'une certaine manière, reprendre le contrôle du pays parce que les États-Unis n'ont jamais reconnu donc, le pouvoir actuel. C'est-à-dire, quand je dis actuel, c'est le pouvoir bolivarien. Donc ça peut remonter donc, à l'élection de Chavez en 1998. Ça fait plus de 26 ans que les États-Unis sont en conflit ouvert avec le Venezuela.
Alors, tu disais que l'entreprise Chevron est toujours aux États-Unis depuis plus de 100 ans hein, dans l'histoire. Mais alors, il y a un truc que tu as commencé à expliquer, mais on n'a pas eu le temps d'aller au bout, où tu expliquais qu'en fait, pour faire l'extraction du pétrole au Venezuela, parce qu'il y a plein de gens qui se posent la question, s'ils ont du pétrole comme ça, dans de telles quantités, pourquoi ils ne l'exploitent pas ? Mais en fait, tu disais qu'il fallait un mode opératoire particulier.
Oui, alors déjà, bon, l'exploitation du pétrole donc, par les États-Unis, par des compagnies états-uniennes, il remonte donc à 1914, hein, donc ça fait plus d'un siècle. Hein, et l'entreprise Chevron et les entreprises précédentes liées à ce groupe, elles sont au Venezuela depuis donc, 1923. Et elles sont toujours restées, hein. Y compris donc Trump annonce que donc les compagnies pétrolières états-uniennes ont été virées en fait du pays. C'est pas vrai. Chevron y est y compris avec un accord avec le gouvernement bolivarien, et donc depuis un siècle n'a cessé d'être présent. Et effectivement, par rapport aux réserves, jusqu'alors, c'était principalement l'exploitation dans l'ouest du pays, donc à Maracaibo, le lac de Maracaibo, là où ont été faites les premières découvertes donc, du pétrole. Et les grandes réserves sont plutôt dans le bassin de l'Orénoque. Et la particularité, c'est que c'est du pétrole lourd et qui nécessite donc une technologie que les Vénézuéliens n'ont pas. Et c'est la raison pour laquelle, y compris les entreprises publiques, sont obligées de créer des consortiums avec des multinationales étrangères pour pouvoir exploiter ce pétrole.
D'accord. Alors, bon, maintenant, tu peux peut-être aller sur cette histoire singulière qui s'est passée depuis plus de 20 ans, justement, sur cette République bolivarienne et ses différents aspects, c'est les moments où elle a été même attaquée par les États-Unis quelque part, pas frontalement, mais
oui.
Bon.
Alors, je dirais que en 1998, donc l'élection d'Hugo Chavez à la tête de la présidence de la République du Venezuela à l'époque, a marqué le début d'un changement assez important dans toute l'Amérique latine, parce que cette première victoire, elle sera suivie de plein d'autres, Lula, Evo Morales et tout ça.
D'accord.
Et donc, effectivement, les gouvernements de gauche vont jouer un rôle important, y compris de bras de fer avec les États-Unis, en refusant notamment des accords de libre-échange en 2005, l'accord de l'ALCA. Et effectivement, Chavez va entreprendre des réformes, donc déjà une nouvelle constitution. Il remet son élection en jeu juste après l'adoption de la constitution, c'est-à-dire un an et demi après sa première élection. Il est réélu avec 59% des voix. Et il faut savoir que donc Chavez, il va gagner 13 élections sur 14. Hein. Il va juste en perdre une. C'était à l'occasion d'un référendum sur une réforme de la Constitution. Il reconnaîtra donc effectivement cette défaite et il n'appliquera pas donc la décision de modifier la Constitution. Et sous sa présidence, il y a eu quand même une politique de redistribution un peu des ressources, c'est-à-dire que en 2002, il y a eu un putsch, donc avec le soutien des États-Unis, hein, donc putsch organisé par le grand patronat donc vénézuélien. La mobilisation donc de la population va empêcher la réussite de ce putsch, hein, de ce coup d'État, et à la suite de quoi donc Chavez va un peu radicaliser un peu son programme et engager donc des mesures, notamment de participation populaire, de pouvoir populaire, je dirais pas de double pouvoir, mais des mesures assez progressistes qui ont été saluées à l'époque par...
Parce que là, c'est en 2002 qu'il se retrouve en tôle.
Oui.
Hein, Chavez se retrouve en tôle. Oui. Et donc, en fait, c'est les gens du peuple qui viennent le sortir.
Oui, c'est la mobilisation populaire qui permet donc d'être libéré et de pouvoir continuer à diriger le pays. Et c'est vrai que si on fait la comparaison avec ce qui s'est passé avec l'enlèvement donc de Maduro, où il n'y a pas eu du tout la même mobilisation populaire en réaction. Et c'est parce que entre deux, il y a eu quand même beaucoup de changements.
D'accord. Oui. Ceci dit, c'est pas non plus la propagande américaine explique qu'en fait il y avait personne dans la rue pour protester, pour dire quoi que ce soit. Or, il y a eu des manifestations de protestation pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord que Maduro soit traité de cette façon-là.
Il y a eu une manifestation à Caracas avec quelques dizaines de milliers de personnes. Bon. Mais comme il y a eu un changement Nicolas Maduro donc a été remplacé
par Dulcy
Rodriguez, et donc elle a appelé donc à ce que les gens restent chez eux, et
ouais,
voilà. Et donc bon, Il y a pas mal d'interrogations. On commence à avoir des éléments, hein, des éléments sur ce qui s'est passé, donc sur l'enlèvement de Maduro et son remplacement par Dulcy Rodriguez. Mais...
Est-ce qu'elle était de connivence ou pas? Tu sais pas.
Il y a beaucoup de choses très surprenantes parce que donc notamment par exemple le Venezuela s'était doté donc d'une défense anti-aérienne assez performante, hein, du matériel russe et chinois qui n'a pas été utilisé. Alors effectivement, l'intervention des États-Unis ont visé donc des axes stratégiques. Comment sur Caracas, hein, bon, l'aéroport, la caserne où il y a toute l'élite de l'armée vénézuélienne. Mais il y a quand même des interrogations. On commence à avoir des éléments, hein, mais je pense qu'il est un peu trop tôt pour être affirmatif. Voilà.
Parce qu'il y avait une dizaine de sites qui ont été visés.
Oui, oui.
Hein. C'est pas que juste à Caracas. Hein. C'était plus large que ça.
Oui, mais c'est sur la côte. Enfin, oui. Ça reste dans une zone géographique
localisée. Ouais.
Oui, très proche de Caracas. Oui.
D'accord. Alors bon, sur l'histoire justement de cette révolution bolivarienne qui se passe, donc on se retrouve avec Chavez qui amène des choses très intéressantes. Tu disais même que tu avais écrit des articles là-dessus. Hein,
oui, moi il se trouve que je suis allé donc à 5 reprises donc au Venezuela et donc j'ai suivi principalement la période de 2003-2015. La période, un peu, je dirais, de radicalisation, hein, de la politique menée, mais des changements entrepris, hein, des changements structurels. Bon, j'ai évoqué effectivement la nouvelle constitution qui attribuait quand même des droits importants donc, aux citoyens, y compris de contrôle un peu des finances publiques et autres, de possibilité aux travailleurs d'avoir un contrôle sur les entreprises, où il y a eu des avancées sociales, mais surtout donc ce qu'il avait appelé à l'époque les missiones, les missions qui ont permis donc effectivement donc de mener des politiques éducatives, sanitaires, de logement très très importantes et qui ont changé un peu la face de ce pays. À travers mes voyages, j'ai pu voir les changements notables. Et effectivement, Chavez bénéficiait d'un soutien populaire très important.
Et donc, au moment où Chavez s'en va, les choses changent quand même.
Pour moi, il y a un tournant important. Il se trouve que j'étais en 2015, donc... dans ce pays, parce que je participais à une rencontre de l'économie des travailleurs, dont j'avais parlé lors d'une précédente émission. Et cette année-là, il y a eu une élection donc, de l'Assemblée législative. Hein, et en fait, le pouvoir bolivarien a perdu cette élection. C'est-à-dire qu'il y a l'opposition s'est retrouvé majoritaire à l'Assemblée législative.
Là, il n'y avait plus Chavez. Hein,
non.
Là, on était avec
Chavez, il est mort en mars 2013. Et il y a eu, donc un mois après, donc Maduro, Nicolas Maduro, a été donc élu. Il avait été désigné par Chavez. Hein. Mais alors que donc le pouvoir donc de Chavez avait gagné pratiquement toutes les élections, là, il y a eu une... Et en tout cas, donc Chavez avait reconnu la défaite lors du référendum sur la Constitution. Maduro va refuser de reconnaître effectivement la victoire de l'opposition. Et il s'ensuit donc des mouvements sociaux, des mouvements citoyens, des manifestations qui vont être fortement réprimées. Et comment... Donc il va y avoir un coup de force un peu du pouvoir pour organiser une élection à une assemblée constituante dont l'objectif n'est pas de rédiger une nouvelle constitution, mais de se substituer à l'assemblée législative.
Qu'il ne reconnaît pas.
Ouais.
Hein, c'est ça. Ouais.
Et donc et alors donc en 2019, donc il y a un député de Juan Guaido, donc un député de droite, proche de l'extrême droite, qui s'autoproclame donc président du Venezuela, et tout de suite reconnu par Trump.
Ah bon ?
C'était le premier mandat de Trump, mais aussi par un certain nombre de pays de l'Union européenne. Ouais. Voilà, donc c'est, pour moi, ça, ces événements-là ont été un peu une rupture avec mon soutien, ma sympathie avec ce qui se passait donc au Venezuela à l'époque.
Oui, ça, parce que en fait, c'était quand même remarquable cette révolution qui se passe, ce qu'amène Chavez, c'est quand même intéressant pour le monde entier. Alors tu disais pour l'Amérique du Sud, parce que d'un seul coup, ça ouvre un peu la porte à l'arrivée de la gauche dans d'autres pays, mais même mondialement, ce qui s'est passé avec cette révolution bolivarienne a été très intéressant.
Oui, ça a eu un écho en Amérique latine, ça, dans le sens où ça a entraîné donc des changements, l'élection de gouvernement progressiste, donc et puis aussi une certaine unité, parce qu'en fait, bon, j'ai pas développé la doctrine Monroe, c'est aussi une politique de division en fait des pays, hein. Mmh. Et donc et là, ils ont pu créer notamment des institutions internationales, l'UNASUR, l'Union des pays du Sud d'Amérique, et ils ont pu mener des politiques internationales, je veux dire, un peu sans tenir compte effectivement des États-Unis, ce qui a renforcé aussi la hargne des États-Unis vis-à-vis de ces politiques.
Alors, on s'approche de la fin de l'émission. Il te reste 2 minutes peut-être. Qu'est-ce qui te semble très important de rappeler encore là
Oui. Alors, je dirais que bon, tous ces changements. Donc, il y a effectivement. Bon, j'ai évoqué un certain nombre d'événements, mais j'ai pas pu rentrer dans les détails. Mais toutes ces périodes ont été donc les États-Unis n'ont jamais reconnu le changement politique au Venezuela, comme dans d'autres pays ailleurs. Et donc, ils n'ont eu de cesse de soutenir donc, les oppositions et de soutenir les coups d'État et autres. Pendant toute une période, ils n'ont pas pu intervenir parce que, notamment, Chavez bénéficiait d'un soutien populaire important. Ils ont essayé, donc, l'extrême droite, l'opposition de droite et d'extrême droite, Trump donc a mis sa menace donc il a décidé d'intervenir comme une menace d'intervenir en Colombie, à Cuba au Mexique, hein. C'est-à-dire que effectivement on est dans une période charnière où il risque d'y avoir des changements importants. Donc j'évoquais donc les zones d'influence au niveau international, mais moi je suis très inquiet par rapport à la Colombie, hein, Gustavo Petro, et par rapport à Cuba, Mexique et autres. Et il y a effectivement une politique impérialiste qu'il faut absolument dénoncer, hein. Et malgré quoi qu'on puisse penser donc effectivement du régime de Maduro, moi je le critique, hein, je pense qu'il y a eu quand même une politique de répression importante ces dernières années au Venezuela que je pense qu'il faut dénoncer. Il faut pas fermer les yeux sur une certaine réalité, même si on a soutenu ce régime bolivarien. Et voilà, donc je pense que l'avenir de l'Amérique latine est assez sombre, surtout après la victoire de Katz au Chili, avec la présence de Milei en Argentine, Bekele au Salvador. Il y a un renforcement donc de la droite réactionnaire, la droite néofasciste, on peut utiliser le terme, et effectivement, il y a tout lieu d'être inquiété. Et donc, plus que jamais, les peuples d'Amérique latine, le peuple vénézuélien ont besoin de notre soutien et de notre solidarité.
Merci beaucoup, Richard. Alors, moi, je me permets quand même de parler d'un autre sujet complètement différent. C'est, on va avoir là le festival du 4e édition du Festival du film paysan, amené par la Conf, évidemment, du 16 au 25 janvier. Alors, je vais essayer de faire très vite. Vendredi 16, au Vence, Manger pour vivre à 20h. Samedi 17, à Privas, leur chant de cœur. De 17 à 17h, samedi 17 à Quintenas, Secret Toxique à 20h. Les titres sont très évocateurs de ce que réclame la Confédération Paysanne par rapport à l'agriculture. Dimanche 18, Vernou, La Ferme Derrière Chez Moi à 17h. Dimanche 18, Le Béage, Droit dans leurs bottes à 14h. Mardi 20, Le Tail, Leur Chant du Cœur. À 20h, mercredi 21 à Saint-Agrève sur la paille à 20h, mercredi 21 à Tournon la fracture de l'eau à 20h, jeudi 21 à Lussas sol couvert d'espoir 20h, vendredi 23 à Aubenas mon cousin agriculteur à 20h, vendredi 23 à Saint-Félicien Leur chant du cœur, 20h. Samedi 24 à Désaigne, soulèvement à 17h. Samedi 24 à Lanars, transmettre à 14h. Dimanche 25, les Olières, où vont les mésanges la nuit à 16h. Et dimanche 25 à Ruons, éleveur d'horizon à 18h30. Ouais, c'est magnifique ces titres. Alors, à chaque fois, le prix est libre. Il y aura des échanges, des débats avec les paysans présents et il y aura un pot paysan. Tout ça, voilà. Et sans doute un appel à une manif jeudi 15 janvier par la Conf, parce que pour les événements qui se passent sur la dermatose et le Mercosur. Merci beaucoup. À bientôt.
Au revoir.